Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Cette semaine dans Escale, coup de projecteur sur l'approche intégrée du processus de désarmement, démobilisation et réintégration en Côte d'Ivoire. Suite à la crise politique, ce pays ouest-africain s'est engagé au plus haut niveau et a mené un processus de désarmement novateur. Il sert aujourd'hui de cas d'école. Une table ronde a d'ailleurs récemment été tenue au siège de l'ONU à New York pour en tirer les leçons. L'occasion de recevoir dans nos studios Fidel Sarah Soros, l'actuel chef de cabinet du président de la Côte d'Ivoire et ancien directeur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration.
D'abord, le processus du DDR, c'est un processus éminemment politique. C'est un programme, certes, mais c'est un programme éminemment politique. Il faut créer un cadre politique d'accompagnement, il faut créer la confiance et il faut créer le stimulus politique. En Côte d'Ivoire, pour ce faire, il y a eu plusieurs accords. Le dernier était l'accord politique de Ouagadougou, avant les élections de 2010. Et l'impétus a été donné, après les élections, par le président de la République qui a créé le Conseil national de sécurité, qu'il préside lui-même. Ensuite, il y a eu la lettre de politique nationale du DDR, qui a permis de définir les grandes lignes de la politique en matière de DDR. Il y a également eu la stratégie nationale du DDR et il y a eu la création de l'agence de l'autorité pour le DDR ADDR, l'agence unique en Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre du DDR. Voilà un peu au plan institutionnel. Ensuite, pour la mise en œuvre, il y a eu l'accompagnement des partenaires, il y a eu des groupes de travail avec l'ONUCI, les bilatéraux, les multilatéraux qu'on a mis ensemble pour accompagner politiquement, techniquement et financièrement le processus. L'appropriation nationale s'est également manifestée en Côte d'Ivoire par le fait que la plupart des spécialistes qui ont conduit le processus étaient des nationaux, y compris moi-même puisque j'étais à la tête de la DDR. Et enfin, l'appropriation nationale s'est manifestée par les ressources mises à disposition par l'État de Côte d'Ivoire parce que 61% des ressources du DDR ont été financées par l'État de Côte d'Ivoire.
Vous parlez donc du fait que le processus était intégré, que les personnes qui ont mené à bien ce processus étaient donc de Côte d'Ivoire. Est-ce que pour créer une forte adhésion, il a été mené par des gens des deux côtés?
Évidemment, il y a eu plusieurs groupes, les groupes armés. Il fallait créer cette confiance-là et il fallait, à travers des programmes de sensibilisation, des programmes de cohésion sociale, les amener à avoir confiance. Et un problème d'équité, s'assurer que tous les produits mis à la disposition étaient des produits mis à la disposition des deux groupes et ensuite beaucoup de transparence et à travers un programme transparent de communication. Donc tout cela progressivement a amené les groupes à adhérer au processus parce qu'ils voyaient qu'il y avait de la transparence, de l'équité et surtout, on a créé la confiance à travers la sensibilisation.
La Côte d'Ivoire est une et indivisible.
L'un des éléments qui a été souligné par rapport à ce processus de DDR en Côte d'Ivoire, c'est sa flexibilité, notamment la possibilité que la reddition des armes puisse avoir lieu en dehors de camps et dans des situations plus accessibles aux combattants. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, alors vous savez, dans le cas classique du DDR, la restitution des armes se passe dans des camps. Donc on demande aux ex-combattants de venir dans ces camps-là qui sont sécurisés et ils déposent leurs armes, on les enregistre, etc. Évidemment, lorsque la confiance n'est pas totale, des ex-combattants quittant leur lieu de confort et aller dans des camps, il y a une certaine méfiance. Donc nous avons, dans ce cadre-là de la Côte d'Ivoire, introduit la flexibilité de créer deux autres types de récupération des armes. Ce que nous appelons le désarmement mobile, c'est-à-dire qu'à travers la communication, on leur disait: écoutez, tous ceux qui ont des armes, nous avions également des agents qui allaient dans les quartiers, dans les faubourgs, dans les villes. Tous ceux qui ont des armes, à telle date, si vous le souhaitez, vous pouvez venir à tel lieu, venir incognito pratiquement, déposer vos armes, on vous enregistre et vous rentrez dans le processus. Donc ça, c'était le désarmement mobile. Et ensuite, nous avons introduit le désarmement communautaire. Et cette fois-ci, ce sont les agents de l'autorité pour le désarmement, donc les agents de la structure, qui allaient dans les communautés où se trouvaient les ex-combattants, ou bien dans les lieux où ils se trouvaient. Donc, ils étaient dans leur zone de confort, et en ce moment-là, ils étaient plus à même de donner leurs armes. Donc, voilà un peu la flexibilité qu'on a introduite dans le cadre du désarmement.
Est-ce que l'ONU a servi aussi pour recevoir des griefs ou des différences entre justement le processus mené par le gouvernement, qui n'était peut-être pas à l'écoute ou à l'entente de ce que souhaitaient d'autres ex-combattants?
Je crois qu'il y avait quand même un groupe de travail qui était coordonné par les Nations Unies, le groupe des partenaires internationaux, qui menait des réflexions, qui examinait le processus et qui, à travers des relations qu'ils avaient avec nous, nous faisaient part de leurs observations, leurs suggestions pour améliorer le processus. Et je crois que c'était extrêmement utile. Dans ce cadre-là, il y a eu des moments où ils ont eu à interroger certains ex-combattants pour voir leurs aspirations, leurs besoins, etc. Et tout cela a été intégré dans un processus de réflexion qui nous ont été communiqués pour améliorer nos... Donc, il y a eu des moments où, effectivement, des ex-combattants ont été interrogés pour voir un peu qu'est-ce qu'ils pensaient du processus, qu'est-ce qu'ils voulaient, etc. Et intégrer tout ça dans une synthèse qui a été communiquée à l'autorité pour le désarmement et la démobilisation de la Côte d'Ivoire qui a pu nous permettre d'améliorer le processus.
Donc, c'est être à l'écoute des différents griefs, qu'ils soient politiques, économiques et sociaux des ex-combattants.
Pas nécessairement des griefs, mais des aspirations.
Oui. Des aspirations. Oui.
Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Au tête d'espérance, nous te repenserons.
Il y a aussi des projets qui ont été mis en place justement pour répondre à ces aspirations ?
Absolument. Il y a eu plusieurs projets. Alors nous étions à l'écoute des ex-combattants. Pour certains, ils avaient déjà des métiers avant de devenir ex-combattants. Pour d'autres, ils n'en avaient pas. Et en fonction des catégories, on leur demandait qu'est-ce que vous souhaitez faire. Ceux qui voulaient retourner à leur ancien métier, on leur donnait un programme de formation, de recyclage pour qu'ils puissent s'adapter aux nouveaux outils, réapprendre, etc. Et ensuite, on les aidait à aller s'installer pour recommencer leurs activités. Ceux qui n'avaient pas de métier, on les formait dans ce qu'ils souhaitaient, mais on leur donnait une panoplie de possibilités que l'économie offrait. Et ensuite, ils choisissaient. Et sur la base du choix qu'ils faisaient, on les formait et on les aidait à s'installer.
Mais alors, comment est-ce que l'on peut s'assurer à cette possibilité de formation dans cette réponse apportée aux ex-combattants, qu'on ne crée pas des situations où les ex-combattants sont favorisés par rapport aux autres populations locales qui, elles aussi, tentent de se relever après, dans une situation post-conflit.
Tout à fait. Alors, ce que nous faisions, c'est que dans une communauté donnée, premièrement, on s'assurait que les ex-combattants, lorsqu'ils revenaient du processus de resocialisation, entreprenaient des activités de cohésion sociale. Par exemple, ils étaient en groupe, ils allaient repeindre l'hôpital, ils allaient balayer l'école, etc., pour se faire accepter. Ils offraient une partie de leur temps à la communauté pour non seulement se faire accepter, mais pour s'intégrer socialement dans la communauté. Et lorsqu'il y avait des activités génératrices de revenus qu'on menait, on demandait aux leaders locaux, aux chefs de village, aux leaders religieux, d'identifier des jeunes de la communauté qui étaient dans une situation de chômage, par exemple, et on les intégrait dans le processus pour qu'ils puissent bénéficier également des programmes. Ça créait la cohésion et surtout, ça évitait le rejet des ex-combattants.
Autre volet que vous avez introduit, c'est la resocialisation. Pourquoi et comment ?
Alors pour nous, la resocialisation, c'était vraiment l'exemple de réussite du programme en Côte d'Ivoire. D'abord, les ex-combattants, on s'est rendu compte, après les avoir pratiqués, qu'ils présentaient très souvent des troubles psychosociaux. Ils avaient une agressivité extraordinaire. Ils étaient souvent dans des situations de maladies chroniques, hypertension, des maladies mentales. Ils étaient souvent également touchés par le VIH-Sida et tout cela. Il y avait également un rejet de la communauté. Pour certains, une violence extrême vis-à-vis de l'autre. Et puis, il n'y avait pas de cohésion. Donc, nous avons créé un cadre où ils venaient en internat, pratiquement dans des camps. Et l'ONUCI, je dois dire, nous a aidés énormément en nous mettant à la disposition ces camps. Ils venaient sur ces camps-là, de tous les bords, des ex-combattants qui, 2 ans auparavant, se tiraient là-dessus, se retrouvaient sur ces camps et vivaient en cohésion pendant 4 semaines. Vous pouvez vous imaginer ce que ça peut créer. Et puis ensuite, sur ces temps, on leur apprenait les droits civils, mais leurs devoirs également. On les formait. Il y avait des programmes d'écoute sur leurs préoccupations. Il y avait également des programmes de désintoxication, de prise en charge de leurs problèmes de drogue. Il y avait des programmes de prise en charge pour ceux qui avaient des maladies chroniques, etc. Et donc, tout cela pendant cette période, et même à la fin du programme surtout, c'est là qu'on leur présentait les possibilités de leur réintégration socio-économique en termes d'emploi. Il y a des spécialistes qui venaient leur présenter les possibilités d'emploi, les perspectives de réintégration économique et ils pouvaient faire des choix sur le marché. Et je crois que c'était quelque chose d'extrêmement utile. On faisait venir également des leaders traditionnels, des leaders religieux, des leaders de la société civile qui venaient leur parler, leur donner des conseils. Eux, ils avaient la possibilité de s'ouvrir à cela et leur donner dire également leurs préoccupations, leurs inquiétudes, leurs angoisses par rapport au futur et ça les rassurait. Et donc, je pense que ça nous a aidé énormément parce que réintégrer économiquement un ex-combattant sans prendre en compte ses cette dimension, c'était extrêmement risqué. D'ailleurs, il y a eu des spécialistes du secteur privé, des leaders, en fait, des chefs d'entreprise qui sont venus, qui ont visité ces sites-là, et ils nous ont dit, mais écoutez, si vous ne faisiez pas cela, nous ne pouvions pas prendre ces messieurs-là, parce qu'on ne sait pas comment ils allaient agir. On ne sait pas si le lendemain, ils allaient foutre en l'air notre usine de production. On ne sait pas s'ils allaient nous voler, ils ne savaient pas s'ils allaient nous agresser, etc. Et donc, ça a rassuré également aussi bien le secteur privé, l'administration publique, mais surtout les communautés d'accueil.
Nous sommes sur la route de la paix, tous ensemble sur la route de la paix. Nous sommes sur la route.
Il y a quand même eu quelques hicks dans le processus de DDR et on a vu récemment notamment des tensions avec les ex-combattants qui réclament qu'ils n'ont pas été payés dûment ou encore des caches d'armes qui ont été retrouvées. Alors, quelle réponse apportez-vous ?
Alors, la première situation concernant les 18 millions ou ceux qui pensaient qu'ils n'avaient pas reçu les primes, je voudrais faire la distinction, ce sont des militaires. C'était des militaires, c'était certes des ex-combattants, mais dans l'accord politique de Ouagadougou, avant la mise en œuvre du DDR, il avait été convenu qu'un certain nombre d'ex-combattants seraient sélectionnés et intégrés dans l'armée. Donc eux, ce sont des militaires, ce ne sont pas des ex-combattants, ils n'étaient plus des ex-combattants. Et c'est ceux-là qui, une fois dans l'armée, ont réclamé des primes qui leur auraient été promises au moment où ils étaient dans le processus de conflit. Donc c'est quelque chose qu'il fallait gérer séparément et le gouvernement a pris des mesures pour régler leurs primes. Pour ce qui concerne le DDR en lui-même, évidemment, il y a certains ex-combattants qui, voyant que les autres ont été payés, ont demandé également, se sont manifestés. Mais ceux-là, très rapidement, à travers la confiance qu'on avait établie avec eux, se sont calmés et le gouvernement a décidé que dans le cadre de la réintégration, parce qu'ils ont tous été réintégrés, dans le cadre de la réintégration, certains ont peut-être fait faillite dans leurs activités et qu'il fallait quand même consolider leurs activités. Donc, il y aura un programme de consolidation. D'ailleurs, certains partenaires qui ont déjà exprimé leur souhait d'accompagner le gouvernement dans la consolidation des activités de ces ex-combattants-là. Pour ce qui concerne les caches d'armes, au moment où le DDR se mettait en place, on avait le souci de savoir où est-ce que les armes qui venaient, qui auraient pu venir en grande quantité, où est-ce qu'on allait les mettre. Il y avait un certain nombre de militaires, d'officiers qui avaient des armes. Et nous, on le savait de toute façon, ils avaient des armes. Il était toujours préférable qu'ils aient ces armes-là parce qu'ils sont des militaires, qu'ils puissent les sécuriser parce qu'on n'avait pas, dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, on n'avait pas encore créé les dépôts d'armes au sein de l'armée. Donc, récupérer ces armes-là, on ne savait pas où les mettre. Parce que dans le cas du DDR, il y avait deux possibilités sur les armes légères, les Kalachnikov, etc. Lorsqu'elles n'étaient pas marquées, on les détruisait avec une masse. Et lorsqu'elles étaient marquées, on les mettait dans leur atelier. Donc ça, c'était fait. À la fin du DDR, en 2015, le Conseil national de sécurité a pris la décision, puisque là, maintenant, UNMAS nous avait aidé à créer des dépôts aux normes standards, etc. On a demandé à tous ceux qui avaient des armes ou des caches d'armes de les ramener. On a eu un flux d'armes qui sont venues et on se rend compte là récemment que certains ne l'ont pas fait. Donc pour nous, à partir de cette décision de 2015, ces derniers-là sont dans l'illégalité. Alors récemment, il y a eu encore un communiqué du gouvernement appelant encore une fois à tous ceux qui ont encore des caches d'armes de les ramener. Et la date butoir, c'était le 31 mai. Et on a vu un flux de gens qui, bon, peut-être pour des questions de confiance, et à certains même, tout simplement, pour des questions de prestige, voulaient garder encore des armes. Peut-être d'autres encore, on ne sait pas, on n'a pas les motivations, qui ont décidé de garder les armes par dévers. Mais on a constaté qu'il y a eu un flux de gens qui, depuis l'appel du gouvernement, ont commencé à amener leurs armes. Mais pour les armes qui ont été ainsi décelées, il y a des enquêtes qui sont en cours pour savoir pourquoi ces armes sont encore dans des caches détenus par des gens, pourquoi ils les détiennent. Et ensuite, ces enquêtes-là vont nous orienter sur les actions à prendre.
Dernière question, quelles sont les principales leçons tirées de l'exemple de DDR en Côte d'Ivoire et quels conseils apportez-vous à d'autres pays qui pourraient être dans une situation similaire ?
Peut-être que la première chose, c'est que le DDR doit se mettre dans un cadre politique. Il faut absolument qu'il y ait un cadre politique et la confiance pour pouvoir mettre un processus de DDR, autrement ce sont des ressources qui seront gaspillées. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une appropriation au plus haut niveau de l'État. Alors je vous l'ai dit au plus haut niveau de l'État parce que nous on a vu des processus de DDR qui sont pilotés, coordonnés par le Premier ministre, bon c'est déjà un niveau, mais par le ministre de la Défense, etc. Tout cela. Mais comme il faut créer la confiance, c'est généralement bien que ce soit au niveau même du président de la République. Troisièmement, il faut qu'il y ait des ressources. et les ressources importantes. Dans certains pays, malheureusement, la fragilité fait que le pays n'a pas de ressources. Nous, en Côte d'Ivoire, encore, on avait un peu plus de chance parce qu'il y a quand même quelques ressources en Côte d'Ivoire. Mais il faut que les partenaires mettent des ressources et de mettre des ressources à temps. Un ex-combattant qui est rentré dans le processus, qui s'attend à avoir un programme ou un package de services à une période donnée et qui ne l'a pas, perd confiance dans le processus. Donc ça, c'est important. Donc il faut qu'il y ait des ressources et des ressources à temps. Et enfin, et ça c'est important, il faut qu'il y ait un mécanisme pour une réintégration durable de ces ex-combattants dans le temps.
Voilà, fin de cette édition d'Escale consacrée au DDR en Côte d'Ivoire. Un magazine préparé et présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Laetitia Kouassi. Merci de votre fidélité. Rendez-vous à la semaine prochaine.